Oh no!
Non.
Très bien.
Parce que bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance.
Bu de l'alcool et fumé du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
Un fasciste.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Voilà, 19h passées de 4 minutes à la pendule de la plus rebelle des radios. Il est l'heure du Canu Info, comme tous les jours de la semaine, 19h-20h. L'émission de ce jeudi, on doit être le 4 février 2010, si je ne me trompe pas, est animée par Delphine.
Bonsoir.
Pas de grosse rubrique cette semaine.
Oh, on parlera quand même d'un petit sujet, hein, le service civique volontaire qui est en ce moment en discussion auprès des députés, en ce moment même.
Voilà, et puis le reste de l'actualité par Laurent. On va commencer par Israël-Palestine, c'est un peu une espèce de tradition des fois dans ce journal, avec quelques petits mots sur des choses qui débordent un peu. Ben, là, on va commencer par parler de la Syrie, puisque il y a une espèce de petite bataille à travers des propos de différents hommes forts, on va dire, des différents pays. Alors ça a commencé, alors je sais pas quand ça a commencé, mais en tout cas hier, le ministre des Affaires étrangères de Syrie a accusé Israël d'être un peu belliciste, ce qu'on conçoit très bien, somme toute, quand on voit bien ce que fait Israël, les survols des pays autour avec ses avions ou ses drones, toutes ces choses-là, les attaques permanentes. Et puis Israël a répondu aujourd'hui à travers la voix de Avigdor Lieberman, qui était à l'université de Bar-Ilan, qui faisait une conférence, donc une université à Tel Aviv, et il a dit qu'attention, mes gars, il a parlé de Bachar el-Assad et puis de la Syrie en général, en leur disant attention, si jamais il y avait une attaque, si on rentrait en guerre, nous on gagne, vous perdez, et en plus ça ferait tomber le régime du président Bachar el-Assad. Donc voilà, des petites pressions comme ça qui remontent. On rappelle quand même que la Syrie et Israël sont dans une situation de statu quo. Il n'y a pas de tension très très forte entre les deux pays habituellement, même si Israël continue de coloniser et d'occuper une partie de la Syrie, hein, puisque le plateau du Golan depuis 1967 et la guerre des six jours est toujours occupé par Israël. Il y a 2 ans, il y a eu des négociations de paix entre les deux pays, et on était en droit de penser que ça allait aboutir à effectivement une paix signée, parce que pour l'instant il y a la paix, hein, ça se canarde pas, une paix signée avec notamment la restitution du plateau du Golan. Et puis, comme d'habitude avec Israël, ça a coincé, et donc aujourd'hui Israël continue d'occuper, alors que la communauté internationale ne reconnaît naturellement pas cette occupation et rappelle que le Golan appartient bien à la Syrie. Donc voilà cette petite bataille entre différents ministres, Israël et Israéliens et Syriens. Et puis, toujours sur Israël, un petit mot sur le maire de Jérusalem, qui s'appelle Ner Barkat, donc qui est un maire israélien dur, hein, qui est embêté, qui est même pas content parce qu'il y a des Palestiniens qui habitent dans sa ville. Donc son objectif à lui, c'est l'épuration ethnique, c'est zéro Palestinien. Alors il les appelle pas des Palestiniens, hein, puisqu'ils sont pas Palestiniens, c'est zéro Arabe dans la ville de Jérusalem, dans sa ville. Voilà, c'est son objectif. Alors pour ça, il a mis en place différents moyens d'arriver à cette épuration ethnique. Il a notamment favorisé l'implantation de nouveaux immeubles dans les quartiers de Jérusalem-Est, hein, qui sont les quartiers arabes de Jérusalem. Et là, il vient de se prendre une petite claque dans la figure par la justice israélienne, lui demande de faire évacuer un immeuble qui a été construit illégalement par des colons juifs, donc en plein cœur du quartier arabe de Jérusalem-Est. Alors ça, c'était l'info du jour, et il s'est exprimé, Ner Barkat, là-dessus. Il a dit, oulala, mais là vous m'embêtez, vous faites un truc qui me plaît pas. Il a pas dit tout à fait ça comme ça, il a dit, je vais me venger. Enfin, il l'a pas dit non plus, il a laissé entendre, il a dit, ok, vous me détruisez cet immeuble, je vais regarder toutes les constructions arabes de Jérusalem-Est qui sont illégales, qui n'ont pas de permis de construire, et je les détruis. Et il en a compté à peu près 200, donc il s'est engagé à détruire ces 200 constructions. Et il faut savoir quand même que toutes les constructions, les réhabilitations un peu grosses, où on rajoute un étage, où on fait des choses dans Jérusalem-Est faites par les Arabes, sont forcément toutes illégales. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'un arabe israélien, parce qu'ils sont israéliens, hein, qu'un arabe israélien fait une demande de permis de construire, eh ben, elle est refusée, la demande. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Au bout d'un moment, les arabes de Jérusalem-Est, qu'est-ce qu'ils font? Ils craquent, eh ben, ils construisent quand même. Donc, forcément, que leurs constructions, elles sont illégales, puisqu'on leur accorde jamais de permis de construire. Donc, voilà, cette petite vengeance va faire mal quand même à sûrement pas mal d'arabes de Jérusalem-Est. Ça continue, on rappelle qu'à l'heure d'aujourd'hui, 180 000 juifs occupent, colonisent les quartiers arabes de Jérusalem, au milieu de 250 000 arabes. Donc voilà, la colonisation est importante, on est presque à la moitié de colons, enfin bientôt à la moitié de colons dans Jérusalem-Est. On rappelle que la communauté internationale considère toujours que Jérusalem-Est est une ville est censée appartenir à l'État palestinien qui n'existe pas, mais qui existera peut-être en 2099. Voilà. Toujours sur Israël-Palestine. Ah, François Fillon a donné son petit mot aujourd'hui sur la situation israélo-palestinienne. Alors, soit il a découvert la situation hier, soit il était fatigué, parce qu'il il était invité au Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, tristement célèbre. Et donc, hein, c'est une instance où les présidents, les ministres y vont pour montrer qu'ils sont les amis du peuple juif et aussi les amis d'Israël. C'est là où on se montre pour montrer qu'on est du côté d'Israël. Quand on y va, c'est un choix politique, hein, c'est un acte politique fort d'aller au CRIF. C'est montrer quel camp on soutient. Et il a rappelé, il a dit que ce serait bien qu'il y ait la paix entre Israël et les Palestiniens. Ça, je pense que personne n'est contre. Enfin, en tout cas ici. Et qu'il a dit qu'il fallait qu'il y ait des compromis des deux côtés. Alors quand on dit ça, ça laisse entendre beaucoup de choses. Et notamment, on sent poindre le reproche fait à Mahmoud Abbas, lui dire qu'il ne veut pas retourner à la table des négociations tant que la colonisation ne s'arrête pas. Et effectivement, François Fillon est allé plus loin que ça, notamment en utilisant pas mal de mensonges. Notamment, il a cité dans les aspects positifs qu'il y a en ce moment sur le conflit israélo-palestinien, la pleine mobilisation des États-Unis pour la relance du processus de paix. Alors ça, on a vu la semaine dernière que c'est un échec complet. hein, que l'envoyé spécial de Barack Obama est reparti la queue entre les jambes et sans aucune solution et sans avancée. Donc la mobilisation des États-Unis est en train de retomber. Le moratoire décolonisation, qui est un signal positif d'après François Fillon, les multiples informations des multiples journaux et télévisions ont montré que ce moratoire n'avait pas lieu d'être, puisqu'ils avaient autorisé, enfin n'existait pas, puisque l'État israélien avait autorisé, donné plein de permis de construire juste avant le moratoire, et donc comme les permis de construire ont eu lieu avant ont été signés avant le moratoire, il y a plein de constructions actuellement, donc il n'y a pas de gel de la colonisation, ni dans Jérusalem-Est, ni dans les territoires occupés. Et il a cité comme signal positif la présence confirmée de Mahmoud Abbas à la tête de l'autorité palestinienne. Faudrait savoir, tout le monde dit que ça manque de démocratie, notamment en Palestine. Justement, Mahmoud Abbas, il est de moins en moins légitime de ce point de vue-là, puisqu'on attend tous, enfin, les Palestiniens, ils attendent une élection qui n'a toujours pas lieu. Et le fait que Mahmoud Abbas reste à la tête de l'autorité palestinienne, c'est pas un signe si positif que ça de la qualité de la démocratie palestinienne. Alors on sait que les élections ne peuvent pas avoir lieu à cause de l'occupation israélienne, à cause du bouclage de la bande de Gaza, mais que ça n'empêche pas que Mahmoud Abbas, normalement, son mandat est arrêté et est fini depuis un certain temps, et ça serait bien que des vraies élections puissent avoir lieu. Mais ça, il faudrait qu'Israël fasse des efforts, hein, pour qu'il y ait des élections, puisqu'actuellement, c'est totalement impossible, hein. Mahmoud Abbas et d'autres l'ont dit, que c'était impossible d'organiser des élections dans cet état, dans la situation actuelle. Et puis on a un petit mot sur un assassinat d'un enfant palestinien qui a eu lieu Alors c'est un rapport qui est paru le 1er février, donc en début de semaine, dans un journal israélien. C'est l'association, l'organisation B'Tselem, c'est l'organisation israélienne des droits de l'homme, qui a dévoilé, en recoupant différents témoignages, que c'est arrivé dans le village de Naline. C'est le journal, c'est le village où il y a toutes les semaines des manifestations contre la construction du mur que tout le monde appelle là-bas le mur de l'apartheid, le mur de séparation entre Israël et les territoires occupés. Et il n'y a pas longtemps, il y a un enfant de 10 ans qui a reçu une balle dans la tête. Et en fait, les différents témoignages ont montré que le soldat s'est approché de l'enfant et lui a tiré une balle dans la tête, quoi. Donc c'est un véritable assassinat. Et c'est révélé non pas par une organisation palestinienne, non pas par des gauchistes européens, mais par l'Organisation israélienne des droits de l'homme. Donc voilà, c'est donc beaucoup moins réfutable. Voilà. Et puis, toujours en lien avec Israël, un petit mot sur le Liban. Alors, ça nous vient de Graziano. Donc, Graziano, c'est le commandant de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban. C'est la force internationale qui est essentiellement dans le sud Liban et qui essaye de gérer cette zone tampon. Voilà. Alors, lui, il n'est pas du tout aimé d'Israël parce qu'il a déjà réfuté pas mal d'accusations israéliennes des soi-disant trafics d'armes du Hezbollah dans le sud Liban. Lui, il a dit qu'il n'y en avait pas. Enfin, il a démonté pas mal de trucs. Israël relance chaque fois les accusations sans amener aucune preuve d'ailleurs. Et donc, c'est un peu l'homme à abattre. Effectivement, il est abattu par Israël. Alors, comme c'est un Italien, un Occidental, Israël fait pas comme fait avec les gens du Hamas ou d'autres résistants, en leur tirant une balle dans la tête. Non, ils ont fait pression. Et effectivement, Monsieur Graziano va céder la place à la tête de la FINUL à quelqu'un d'autre, hein, qui doit être un général espagnol, Monsieur Cuevas. Et en partant, il a été interviewé par la radio militaire israélienne, et il a donné son avis. C'est intéressant parce qu'il accuse, c'est quand même le chef de cette force internationale, il accuse Israël de violer régulièrement les résolutions de l'ONU, d'humilier les Libanais, notamment ceux qui habitent au sud Liban, notamment en expliquant que les chasseurs israéliens violent en permanence l'espace aérien libanais, en venant faire des raids, alors essentiellement des raids d'observation. Alors, lui, il dit que l'armée israélienne se justifie en disant qu'ils ont besoin d'y aller pour regarder s'il n'y a pas des trafics d'armes, s'il ne se passe pas des choses, tout ça. Lui, il rappelle qu'il n'y a pas de trafic d'armes avec le sud du Liban, parce qu'au sud du Liban, il y a quoi ? Il y a Israël. Donc en fait, les armes, quand elles arrivent par en haut, elles n'arrivent pas par ce côté-là. Donc voilà, c'est un faux problème. Et puis lui, il rappelle que c'est une humiliation permanente infligée au Sud-Libanais, cette présence israélienne, au moins dans les airs. Donc voilà. Et puis il a rappelé aussi qu'il y a une résolution de l'ONU qui a demandé à Israël de partir du Sud-Liban. Or, Israël n'est pas parti complètement du Sud-Liban. Il y a le cas notamment du nord du village de Gajar, qui est toujours occupé par Israël. Donc voilà, il a rappelé que Israël ne respectait pas les résolutions internationales. Donc voilà, c'est une sorte de dernière parole avant de retourner dans l'armée italienne. Le général Graziano, donc, qui est à la tête de la FINUL.
Oui, juste pour revenir sur le Israël et Palestine. La semaine dernière, on vous a parlé BD. Cette semaine, je vais vous parler de livres sans images. Un petit roman qui s'appelle Palestine. C'est un roman de Hubert Haddad, hein, qui est poète, romancier, essayiste, qui a écrit à foison. Et donc, ce petit roman édité à la base en 2007 chez Zulma, et que maintenant on trouve en livre de poche pour 5 petits euros, un malheureux euro, 5,50 € précisément. C'est donc l'histoire de d'un pauvre soldat israélien qui est pourtant en permission à la frontière avec la Cisjordanie et qui, au moment d'un affrontement, va être enlevé par les Palestiniens et puis qui va se retrouver blessé, complètement choqué, qui va perdre son nom, qui va être accueilli par une femme et sa fille et qui va se retrouver donc de l'autre côté du miroir en Cisjordanie, avec le peuple palestinien. C'est vraiment un roman qui est très beau, tout simple. Il y a aucune violence dans l'écriture. Hubert Haddad, il est plutôt connu pour écrire des choses en général assez engagées malgré tout. Il a certains écrits hein, qui sont là pour le prouver. Donc voilà, c'est un très beau roman sur finalement un territoire bien malheureux.
Voilà, et on reste un peu dans le coin, enfin on va plutôt vers l'Afghanistan, juste pour reprendre la phrase de Hamid Karzai qui m'énerve beaucoup, moi, puisqu'il a demandé officiellement à l'ONU de retirer de la liste noire les talibans, qui seraient plus considérés comme des méchants. C'est intéressant, hein, le retournement, a priori, il est quand même pas mal soutenu par certains Américains haut placés. Donc voilà, c'est les anciens ennemis, enfin autrefois ça a été les amis, après c'est devenu les ennemis, ça va revenir les amis des Occidentaux. C'est mal parti quand même pour plein de choses et notamment pour le droit de la femme en Afghanistan, mais ça c'est un autre débat. On va parler du FMI aujourd'hui, de la Grèce, puisque M. Strauss-Kahn, donc, qui dirige le FMI, est intervenu sur la situation grecque. Vous savez que la Grèce est en quasi-dépôt de bilan. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, bon, ils ont des gros soucis financiers, ça pose problème parce qu'ils sont dans la zone euro, et donc ces répercussions financières peuvent toucher tous les autres pays de la zone euro, donc il y a une espèce de mobilisation, et c'est intéressant parce que lui, en tant que patron du FMI, il est prêt à aider la Grèce. Alors la Grèce n'a pas demandé l'aide du FMI. C'est intéressant parce que lui, la Grèce, elle est très endettée, comme beaucoup de pays, ceci dit, et puis elle a plus d'argent. Et lui, qu'est-ce qu'il va proposer ? Un prêt, un nouveau prêt. Donc c'est-à-dire endetter encore plus la Grèce et la faire plonger encore plus. Donc aujourd'hui, le FMI n'a pas changé de comportement. Alors certes, dans son discours, il est un peu plus vague qu'autrefois, que les anciens patrons du FMI, ils disent qu'il faut mettre de l'aide actuellement pour réduire le chômage, que c'est la solution à tout finalement, quand le chômage est réduit, l'économie redémarre, la prospérité, les impôts rentrent, etc. Donc effectivement, ça c'est un discours qu'on n'a pas toujours eu. Et puis il dit qu'il faut absolument réduire les déficits publics. Et là, on connaît le discours habituel du FMI, parce que pour réduire les déficits publics, on n'augmente pas les impôts, mais qu'est-ce qu'on fait ? On réduit les fonctionnaires. Et on sait que dans tous les pays où le FMI a demandé tout ça, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, les pauvres n'ont plus accès aux médecins, les pauvres n'ont plus accès à l'aide sociale, etc. etc. Donc attention, il est quand même toujours dans la lignée des discours habituels du FMI, qui est un discours libéral. Oui, Strauss-Kahn est resté quand même un grand libéral, même s'il est membre du Parti Socialiste, il est quand même, ça doit être le moins à gauche du Parti Socialiste, même s'ils ne sont pas à gauche du tout. Donc voilà.
Oui, toujours dans l'économie, la Corée du Nord se bat avec sa monnaie. Alors je ne sais pas si tu le sais, mais la Corée du Nord, elle est sortie, elle a abandonné le communisme.
Non.
Et si. En fait, c'est une info qu'on a déjà depuis le mois de septembre. C'est une grosse réforme constitutionnelle qui avait été validée en avril. L'information, elle est parvenue en septembre. Donc, ils ont abandonné cette référence. Au passage, Kim Jong-il, qui commence un peu à penser à sa succession hein, quand même, a été nommé donc dirigeant suprême, nouveau nom, et commandant en chef de l'armée, toujours hein, des choses toujours liées à l'armée, forcément, on est en Corée du Nord. Et il faut savoir qu'il y a un fast-food hein, qui s'est ouvert à Pyongyang. Alors ça a des noms particuliers, hein, évidemment, ça s'appelle pas un burger et tout ça, mais ça reste complètement atypique, dans le sens où personne ne peut aller s'acheter ce genre de choses en Corée du Nord, puisque globalement, le bœuf haché avec pain, comme ça s'appelle là-bas, ce qui revient au burger, hein, coûte 1 euro, ce qui est le salaire mensuel pour un nord-coréen, donc c'est pas la peine. Donc, comme je vous le disais, ils sont en train de s'agiter autour de leur monnaie, une grosse réforme. Pourquoi ? Puisqu'en fait, depuis quelque temps, le commerce interne est en train d'échapper aux autorités. En 2002, il y avait une grosse réforme économique, c'était suite à la famine de la fin des années 90. Donc ils ont laissé un petit peu les frontières, on va dire, s'ouvrir sur certains produits extérieurs. Jusqu'actuellement, il y a 70% des marchandises qui circulent en Corée du Nord qui sont chinoises. Donc il y a une certaine porosité sur le nord de la frontière. Hein. On sait qu'il y a beaucoup de traversées aussi des Nord-Coréens qui essayent de fuir, ou alors qui traversent quotidiennement pour essayer d'aller travailler de l'autre côté et ramener de l'argent et de la nourriture de l'autre côté, en tout cas pour ceux qui habitent sur le nord. Donc ils essayent de juste en fait d'intervenir pour bloquer ce nouveau commerce qui est en train de se développer. Plus la Corée du Nord s'ouvre, plus les Coréens sont en train de se rendre compte qu'on leur a menti. Hein. C'est quand même de la propagande qui est très forte. Hein. Dès vos 2 ans, on vous apprend qu'ailleurs c'est le chaos, que tout est en train d'exploser, que les autres, vous crevez de faim, mais que chez les autres c'est pire. Donc ils sont en train d'apprendre finalement quelque part le capitalisme, la société de consommation. Alors, ça se passe pas exactement comme prévu, puisque il y a quand même un certain mouvement d'opposition, si on peut parler comme ça en Corée du Nord. Il faut savoir que c'est les femmes qui sont les plus actives sur cette question, puisque c'est elles qui sont très présentes sur les marchés. Et si cette réforme sur la monnaie, qui va en fait les empêcher de pouvoir échanger un certain nombre de billets, qui sont des choses qui sont très contrôlées, c'est-à-dire que les gens vont se retrouver avec de l'argent qu'ils ne pourront pas dépenser, qui ne servira à rien à un moment. Si cette réforme elle passe, c'est tout le marché noir, toute l'économie réelle hein, de la Corée du Nord qui va s'effondrer, et on peut penser que de retour la famine risque de guetter. Alors il faut savoir qu'en même temps en Corée du Nord, il y aurait derrière, selon les dernières informations, 200 000 prisonniers dans les camps. Alors vous savez, les camps, il y en a plusieurs. Le pire, c'est d'être en prison, puisque ça veut dire que vous n'êtes plus citoyen nord-coréen, vous n'êtes plus reconnu. Alors après, vous avez les camps de rééducation par le travail, hein, il y en a un sacré paquet. Il n'y a pas beaucoup de Nord-Coréens qui se sont installés en Corée du Sud. Les derniers chiffres, c'est de moins de 3000. Beaucoup restent en Chine, ou alors se baladent un petit peu sur d'autres pays. Certains sont rattrapés, puisque des pays comme le Laos ont des accords avec la Corée du Nord, par exemple, pour envoyer ceux qui essayent de s'enfuir. Donc, voilà, ça reste quand même un pays où, malgré le fast-food, il n'est pas bon de vivre.
Est-ce que tu as d'autres infos sur l'international ?
Oh, j'ai une petite info sur la Corée du Sud, comme ça on peut passer à la frontière. Alors ici, on parle des difficultés des femmes à avoir l'accès aux IVG, hein, à l'avortement. Il y a une loi, mais il n'y a pas assez de médecins, pas assez de services. Le fait de pouvoir aller maintenant dans un cabinet d'un spécialiste n'a pas vraiment arrangé les choses. Alors il faut savoir qu'en Corée du Sud, le débat sur l'avortement est relancé, puisque en fait là-bas l'interruption de grossesse n'est permis que dans les cas où il y a santé, des problèmes de santé pour la mère, il y aurait eu un viol, un inceste, enfin des choses extrêmement précises. Alors il y a un groupe qui s'appelle le GINOB qui s'est créé, c'est des obstétriciens. Ils cherchent à dissuader les femmes donc d'avoir recours à une interruption de grossesse. Et puis à côté, il y a un autre groupe qui se met en place, avec des médecins tout aussi. Et donc ces deux groupes sont en train de mettre en place une propagande, une communication très importante en Corée du Sud. Il faut savoir qu'il y a une chute de la natalité qui est très forte dans ce pays, et que le gouvernement qui dans les années 70, avait poussé les couples à avoir peu d'enfants. Il était mal vu d'avoir plus de deux enfants en Corée du Sud. Ça faisait pas bien vivre la nation. Il fallait rentrer un petit peu dans les modèles occidentaux. Avec donc l'amélioration de la croissance économique et toutes ces choses-là. Aujourd'hui, je crois que le renouvellement il est 1,19, donc c'est très bas, c'est plus bas qu'en Europe. Donc du coup, il y a aussi cette question qui arrive dans le débat, mais il faut savoir que le débat, il n'est pas tant finalement sur les questions morales, puisque finalement, quand on lit un petit peu, par exemple, les chrétiens en Corée du Sud, hein, qui sont très très importants, hein, qui sont un groupe très important en Corée du Sud, eux, ils disent, ben, c'est un peu comme ailleurs, qu'il faut non pas dire que c'est mal, mais dire que c'est la vie qui est bien. Vous voyez, donc ils essayent de prendre le problème un petit peu à l'envers, mais c'est la même chose qu'on voit un petit peu en France, hein, ils essayent de moins diaboliser leurs propos, enfin, les résultats sont les mêmes. Donc, comme je vous le disais, c'est pas tant sur la moralité et sur la religion que le débat est en train d'un petit peu de virer, c'est sur le fait que les médecins qui pratiqueraient ces interruptions de grossesse se feraient de la thune, en fait. C'est-à-dire qu'ils profiteraient du nombre de femmes qui arriveraient, puisque c'est un acte qui n'est pas remboursé, qui est extrêmement cher. Je crois qu'on est autour de 340 euros, si je ne me trompe pas. Donc, ils profiteraient du système. Juste que c'est un débat qui est évidemment tronqué, encore une fois, puisque on aura beau interdire complètement l'avortement en Corée du Sud, ça n'empêchera pas les femmes de tomber enceintes. Hein. Donc voilà, c'est un débat qui est en train un peu de secouer le pays, à côté du débat sur la natalité.
On va parler un petit peu des choses qui se passent pas loin de chez nous. On va commencer par des débuts de mobilisation dans les collèges et les lycées. En France, ça démarre un peu doucement, mais en banlieue parisienne, ça commence à prendre forme. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord, par exemple, à Vitry-sur-Seine, où un élève a été agressé. Donc là, il y a des grèves du personnel qui utilisent leur droit de retrait. Mais à d'autres endroits, la grève se répand. On a collège et lycée Henri Vallon à Aubervilliers, on a le lycée Le Corbusier toujours à Aubervilliers, on a des lycées professionnels, notamment le lycée professionnel Jean-Pierre Timbaud en banlieue parisienne qui est en grève depuis le 29 janvier. On a à Pantin aussi des débuts de grève. Alors, pour l'instant, les médias n'en parlent pas trop, puisque c'est des mouvements un peu locaux qui sont liés à des situations locales, mais la grogne monte. Il faut dire que depuis le 28 janvier, c'est-à-dire depuis une semaine, on a les textes parus au Journal officiel sur le fonctionnement des lycées et des collèges, et surtout sur la réforme des lycées qui est mise en place donc à la rentrée 2011. Et l'arrivée des nouveaux programmes, et là, ça commence à remuer, puis ça va peut-être commencer à mobiliser. Alors d'abord, les modifications, c'est la plus grande autonomie des lycées et des collèges, donc en gros, ça donne beaucoup plus de pouvoir aux chefs d'établissement. Ça en fait donc des petits patrons pour une partie des enseignants, à peu près 20% qui seraient directement choisis et embauchés par le chef d'établissement, avec toutes les contraintes qu'on peut imaginer, les pressions qu'on peut imaginer, etc. Donc ça, c'est les premières choses qui vont se mettre en place. Ensuite, dans ce qui est apparu, notamment dans les nouveaux programmes, alors je ne vais pas rentrer en détail, on en parlera je pense plus tard quand on aura tous les programmes, parce qu'on n'a pas tous les programmes, mais on a noté, alors il y a de gros changements dans les programmes de SES, où la partie sociale perd beaucoup de son ampleur et est remplacée par la partie économique. Donc on va apprendre à faire un bilan plutôt qu'apprendre ce que c'est que le chômage, à quoi c'est dû, etc. Et puis l'histoire est aussi revue à travers une conception européocentriste sur les grands hommes. Il y a une reprise en main idéologique des cours d'histoire par le pouvoir. Donc c'est très flagrant. Et puis on a la quasi-annonce de la disparition des lycées technologiques. On le sait parce que la seconde qui avait notamment les options SI qui permettaient de préparer aux premières et aux terminales STI, jusqu'à maintenant c'était des lycées spécialisés qui faisaient ça, les lycées technologiques qui préparaient ces secondes là et ben maintenant non, puisque dans le nouveau programme il n'y a plus du tout de partie pratique sur la partie qui prépare à la technologie. Donc ça veut dire que tous les lycées vont pouvoir le faire, donc derrière tous les lycées vont sûrement pouvoir faire le bac STI, s'il y en a un qui existe, il y en aurait un. Et dans ces cas-là, il n'y aurait plus du tout de partie pratique et on supprime comme ça cette voie médiane entre la voie générale pour former les décideurs de demain et puis la voie professionnelle pour ce qui forme les exécutants, c'est-à-dire les esclaves de demain. Il y avait cette voie intermédiaire qui permettait un peu de faire une sorte d'ascenseur social hein, et puis de donner une seconde chance aux élèves qui rataient un bout de leur scolarité ou qui étaient un peu en retard parce qu'il y en a qui ont besoin de plus d'années que d'autres, etc. C'est fini. Donc voilà, la mobilisation risque de prendre de l'ampleur. Il faut savoir qu'il y a quand même des lycées technologiques qui étaient en grève au mois de décembre, mais ça s'est assez peu su. Donc voilà, sinon la bonne nouvelle pour les lycées de Lyon, c'est pour les lycéens qui étaient poursuivis suite à la mobilisation de décembre, notamment les lycéens de Saint-Exupéry, qui étaient poursuivis pour violence et dégradation. On rappelle qu'ils avaient été un peu malmenés par la police. Il y avait d'ailleurs un lycéen qui s'était cassé une jambe suite à l'action de la police. Ils ont été déclarés, on l'a appris aujourd'hui, innocents par la justice, donc ils ne sont pas poursuivis du tout pour violence et dégradation, ils sont innocentés. Par contre, la police, qui a eu une attitude, elle, particulièrement violente et agressive, ayant entraîné blessure, hein, une jambe cassée, elle, n'est pas poursuivie, naturellement.
Oui, toujours dans l'éducation, mais dans l'enseignement, pardon. Mais dans l'enseignement supérieur, on a appris que Lyon 3 n'avait pas payé ses professeurs vacataires depuis à peu près 5 mois, donc 5 mois d'arriéré, hein, 8000 euros qui est dû. Vous savez, tout ça maintenant, il commence à y avoir quelques problèmes, c'est grâce à la LRU, cette fameuse loi hein, qui réforme les universités. Donc les universités doivent payer maintenant un certain nombre de gens, jusque les professeurs vacataires, c'est quand même eux qui font tourner l'université. Alors ce serait tout ça à cause d'un logiciel, hein, voilà, il serait pas bien opérationnel. Enfin, toujours est-il que la vérité, c'est qu'apparemment, ils auraient décidé de payer leurs professeurs vacataires tous les 6 mois. C'est pas mal, c'est très fort.
Et d'ailleurs, ils ont des gros soucis financiers, puisqu'il y a des universités qui n'arrivent pas, alors que le deuxième semestre va commencer, qui n'ont pas les moyens de payer justement tous les profs, tous les vacataires, tous ceux qui y interviennent, pour faire toutes les options. Donc ils vont supprimer des options, ils vont supprimer des unités d'enseignement. Voilà, c'est la réforme, elle a été beaucoup combattue et il y avait vraisemblablement beaucoup de raisons de la combattre.
Et la fonction publique va pas bien hein, avec les nouvelles qui attendent, les nouvelles réformes qui attendent les fonctionnaires. On a aussi appris que la ville de Lyon devenait radine avec ses plus précaires et pauvres salariés puisqu'elle a décidé de mettre fin à la prime de fin d'année. Qui correspond à un 13e mois hein, dans le privé, c'est la même idée. Puisqu'il faudra maintenant, pour la toucher, avoir plus de 2 mois d'ancienneté. Enfin, les critères se mettent en place. Jusque ça touche qui ? Les agents qui sont dites de catégorie C, c'est-à-dire celles du bas, ceux qui sont SMIC. Et ce qui est intéressant, c'est d'entendre l'adjointe de Gérard Collomb, dont j'ai perdu le nom, qui dit que bon, c'est une prime, elle n'est pas si importante, puisque ce serait 200-250 euros.
C'est-à-dire le quart du salaire d'un SMICard.
Voilà, c'est donc on vous donne ça quand même à la fin de l'année. Vous pouvez être content. Alors, évidemment, celle-là, elle est proportionnelle et des tas de choses, hein, mais je veux dire, quand elle fait référence à cette somme-là, en citant 250 euros, c'est quand même une grosse somme. Donc, madame, sachez qu'être payé au SMIC, ce n'est pas terrible. Voilà, donc la fonction publique va vraiment très très bien.
Ouais. Et je vais revenir sur les deux polémiques de ces dernières semaines. Juste la polémique de cette semaine d'abord, avec cette candidate du NPA qui se présente voilée pour des raisons religieuses, défendue par le facteur, parce qu'Olivier Besancenot a fait un communiqué que j'ai sous les yeux. Il a dit que son parti accueillait tout le monde, les précaires, les chômeurs, les salariés de tous horizons, que la foi était une question privée et qu'elle n'avait pas sa place, enfin que voilà, qu'il ne se permettait pas de lui interdire de se présenter au nom de son parti. Ce qui est triste aujourd'hui, c'est que finalement, la religion qui reste quelque chose d'idéologique, qui est accaparé par les partis politiques dès que ça les arrange. Hein, on a vu le premier ministre aller au CRIF il y a pas longtemps. Là, aujourd'hui, si on regarde dans une élection, quels sont les partis qui assument leur laïcité dans le sens anticléricalisme, c'est-à-dire qu'ils se disent qu'il faut construire une société sans religion, faut s'émanciper de la tutelle des religions. En gros, il faut respecter le premier article de la Constitution française, c'est-à-dire que les citoyens sont libres, Hein. Bah aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup, parce que le NPA donc, accepte des religieux, ou des gens religieux, et qui, pour le coup, font mettre leur religion en avant, parce qu'elle met sa religion en avant. Alors je me demande si aujourd'hui, il y a encore un parti qui est vraiment un parti laïque et anti-religieux en France. Alors on sait que le discours anti-religieux n'a quasiment pas sa place dans les médias, puisque aujourd'hui c'est à la mode de dire que toutes les religions sont bien, hein, c'est un peu une espèce de consensus, en tout cas pour les gros partis politiques. Et effectivement, on se dit peut-être qu'il reste encore le Parti communiste, et j'en suis même pas sûr qu'il y ait aujourd'hui vraiment un parti qui dise qu'il faut s'émanciper de la religion. Donc voilà, c'est un gros recul. Enfin, on n'attendait pas grand-chose du NPA, hein, mais voilà. Je pense que ça doit faire réfléchir certains qui ont adhéré au NPA. Et puis la deuxième info, c'est les infos qui servent à rien un peu quelque part. Là, moi, je vais faire l'info qui sert à rien, c'est Georges Fraîche, donc qui est quelqu'un de totalement détestable. Hein, on le sait depuis longtemps. Même si des fois il tient des propos qui sont quand même à discuter, souvent c'est pour la polémique qu'il le lance. Donc là, c'est toujours les propos sur Fabius. Moi qui ne m'avais pas choqué plus que ça, je trouvais juste que c'était ridicule de sa part de dire ça à Fabius, mais bon, bon voilà. Par contre, il est soutenu par des gens et ça démontre un peu ce qu'a dit d'ailleurs Gérard Collomb, je crois, dans un texte, ou dans un des journalistes, c'est que Fraîche, il n'est pas connu pour être antisémite du tout, quoi. C'est marrant le faux problème que derrière ces propos qui sont nuls, de dire que Fraîche est antisémite, il a tous les défauts du monde, il est insupportable, il est sûrement très raciste sur plein de trucs. Mais on l'a vu défendre Israël, par exemple, on l'a vu défendre le sionisme. C'est pas du tout quelqu'un d'antisémite. Et la preuve, je l'ai aujourd'hui, puisque nous avons l'organisation qui s'appelle la Ligue de Défense Juive. Alors, c'est un groupe d'extrême droite qui est quasiment interdit dans presque tous les pays occidentaux, sauf la France. Allez comprendre pourquoi. Qui a fait un communiqué de soutien à Georges Fraîche. Et je vais citer des extraits du communiqué parce que c'est drôle. Ils disent « Georges Fraîche est un ami fidèle du peuple juif et d'Israël depuis de nombreuses années. Face à un Fabius qui a choisi de renier son judaïsme et que nous n'avons jamais vu dans une seule manifestation de soutien à Israël depuis 40 ans. » Donc eux, ils sont anti-Fabius quand même. Pour eux, Fabius est un juif traître, hein, quand même, c'est intéressant. Ah bon, après, ils dénoncent plein d'autres choses. C'est un groupe d'extrême droite, hein, de toute façon. Ouais. Donc, mais voilà les propos que peuvent déclencher Fraîche. Et effectivement, c'est le débat sur lui, ça permet de prendre de l'ampleur dans les médias, d'occuper la place pour pas parler d'autre chose. Parce qu'on s'en fout que c'est quelqu'un qui est méprisable et qui aurait dû être exclu définitivement de la vie politique et du PS depuis des milliers d'années. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc voilà. Si tu voulais parler du service civil, machin, là.
J'avais un petit extrait de Martin Hirsch à vous faire écouter, mais c'est...
Je suis prêt.
Non, mais alors, je vais commencer. Alors, donc, aujourd'hui, se discutait devant les députés le service civique volontaire. Ce service civique pourrait donc remplacer le service civil volontaire qui avait été annoncé en 96 par Jacques Chirac, suite à l'arrêt du service militaire obligatoire. Puis finalement, ça a été rediscuté en 2005. Le décret date de 2006, hein, pour la création de ce service civil volontaire.
Qui a toujours été un flop.
Qui a toujours été un flop, puisque à la base, il devait attirer 15 000 jeunes par an. Seuls 6500 contrats ont été signés, hein, depuis le début du dispositif. Monsieur Sarkozy, lui, proposait un service civique obligatoire, comme lors d'un de ses discours à Marseille en 2006. Hein, il avait déjà un peu tâté le terrain ces dernières années.
Il a un côté stalinien, des fois. Ça fait un peu ça, le service civique obligatoire. Voilà. Hein.
Alors, non, on va y revenir au stalinisme. Donc, il avait envoyé un petit peu, hein, de certains de ses ministres secrétaires d'État. Donc, par exemple, il y avait Monsieur Laporte qui était allé dans les médias propager un petit peu l'idée. Et puis, en 2008, Monsieur Sarkozy avait chargé Luc Ferry, qui écrit un nombre de rapports hallucinants, qui est à ce moment-là président du Conseil d'analyse de la société, c'est le CAS. Voilà encore un acronyme. Luc Ferry était chargé de faire un rapport sur la question, hein, sur le service civique volontaire ou obligatoire. Les questions étaient posées. Il faut savoir que Luc Ferry, il prône plutôt le volontariat, hein, dans ce rapport qu'il a remis en septembre 2009 à Sarkozy. Et puis, Martin Hirsch, il a redéveloppé la chose en 2009 dans son livre vert, hein, qui était, si vous voulez, un état des lieux un peu et puis de ce qu'on devrait faire pour la jeunesse. Hein, voilà, ça c'était important. Il y avait une grosse partie donc sur ce service civique. Alors le Sénat a accepté la proposition de loi qui est discutée là en ce moment devant les députés en octobre 2009. Hein, c'était une proposition de loi qui a été proposée par les radicaux de gauche. Il faut savoir que donc le Nouveau Centre, les radicaux de gauche et l'UMP ont voté pour. Les Verts, je crois, ont voté contre. Le PC aussi, jugeant qu'il y avait des petits soucis dans cette proposition de loi. On veut bien les croire. Alors, le service civil, c'était quoi? C'était, en fait, une possibilité pour les 16-25 ans de faire du volontariat, globalement, vous l'aurez compris. Face à l'échec scolaire, hein, les personnes âgées, dans des associations. Il n'y avait pas de date de fin, mais en général, il était de 6 à 1 an, à peu près de 6 mois à 1 an, pardon. Donc, là, l'idée, c'est un petit peu de remettre à plat. Il faut dire que c'est vrai qu'avec le service civil volontaire, il y avait 9 contrats possibles, ce qui alourdissait un petit peu les choses. Alors, le service civique, ça serait quoi? Puisque c'est là, en ce moment, en train d'être discuté. Alors, ça serait toujours pour des missions d'intérêt général. Ça serait pour les plus de 16 ans de nationalité française ou résidant en France depuis plus d'un an. Ça, c'est pareil, hein, c'est peut-être en discussion. Il faut savoir que c'est plutôt pour les 16-25 ans, mais a priori, dans le projet de loi, il n'y avait pas de date limite. Donc, à ton âge, tu pourrais donc, dans le projet de loi, faire, je ne dirais pas quel âge tu as, un service civique volontaire. La date, elle est fixée, enfin, la durée, pardon, est fixée, ce qui n'était pas le cas pour celui qui était civil, de 6 à 24 mois. Alors, dans le projet de loi, il y aurait une indemnité, hein. Pas un salaire, hein, une indemnité. Oui. Entre 540 et 650 euros, voilà, c'est un petit peu les chiffres qui sont donnés. Ça serait toujours possible au sein des collectivités, des ONG, du milieu associatif. Il y avait déjà des choses dedans un peu précises, hein, comme il faudrait faire 24 heures par semaine, au moins. Ça donnerait droit à la possibilité, ça donne droit d'enchaîner sur une validation des acquis de l'expérience, la VAE. Ça serait, voilà. Donc c'était un petit peu toutes ces choses qui étaient mises dans cette proposition de loi. Ce qui est visé, c'est 10 000 personnes sur 2010. L'État, il a déjà débloqué 40 millions d'euros. Le coût estimé à l'année après, ça va être 500 millions. Hein. Pas une petite somme, hein, quand même. Mais il faut savoir que le service civique obligatoire, lui, il était estimé à 3 milliards pour 600 000 appelés par an. Donc évidemment, on peut penser que ce qui est en train de faire basculer du couteau volontaire...
C'est l'argent.
C'est l'argent, hein, puisque l'objectif, il est 10% d'une classe d'âge.
Et quel est l'intérêt, alors, de pousser... Est-ce qu'on a une idée de la raison idéologique? Parce que la droite, elle pousse à faire ça.
Alors déjà, au niveau du vocabulaire, il y a une petite différence entre civil et civique. Civique, c'est simple, c'est qui concerne le citoyen. Donc on a un rapport à l'État, à l'institution, qui est très clair. Civil, on pense à société civile, hein, mais c'est vrai que même quand vous parlez d'une guerre civile, c'est pas parce que ça se passe chez vous et que cette guerre, elle est civile, que vous vous êtes touché. C'est bien le principe de la guerre civile. Hein. Donc, entre civil et civique, il y a quand même une grande différence. Civil, ça pouvait inclure ni militaire, ni religieux, ni politique. Donc, on sent quand même un changement linguistique qui est très de tendance Sarkozy, si je peux me permettre un petit peu de le dire comme ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut... Bon, alors, le rapport avec l'armée, il n'existe plus, dans ce sens-là. On peut un peu en penser que on est proche un petit peu de cette déclaration de Sarkozy qui parle, lui, de service républicain à la base. Donc on est toujours quand même dans l'idée de la nation, hein, en plein débat sur l'identité nationale. On est quand même pas loin. Alors on se demande.
C'est un peu ça qu'on avait derrière. C'était l'école qui est censée former les citoyens, c'est-à-dire les faire rentrer dans le moule républicain. Elle n'y arrive pas tout le temps parce que les profs, ils sont pas toujours contrôlables, etc. On rajoute une couche en sortant de l'école pour une partie des jeunes. Et ça va concerner qui? Ça va concerner ceux qui n'ont pas de boulot derrière, qui n'ont pas les diplômes, etc. Eux, on va essayer de leur remettre une couche de 6 mois pour essayer de les faire rentrer dans ce moule républicain sur lequel ils ne sont pas totalement compatibles. Moi, c'est ça que je vois, j'ai l'impression que ça va servir à ça.
Ouais, alors Sarkozy dit « Pour les jeunes, une chance unique de s'engager, de s'approprier pleinement les valeurs de notre pays, de ne pas être seulement spectateur, mais acteur du monde qui est en train de se construire. » La bonne blague. Il nous parle aussi de mixité, alors ça c'est un truc, et de cohésion sociale. Vous savez ce grand mot de cohésion sociale qui est utilisé à tort et à travers. Donc voilà, a priori ça devrait ressouder la nation.
Non, parce que la cohésion sociale, le petit bourgeois qui fait son école d'ingénieur ou son école de commerce, quand il sort de son école de commerce, il va trouver trouver du boulot, il ne va jamais postuler à 6 mois de service civique. Donc il n'y aura pas de cohésion sociale, hein. Ça va toucher que ceux qui ne trouvent pas de boulot. À mon avis, c'est plutôt ça, quoi.
Et alors, le fond du problème, hein, que moi j'ai soulevé dès le départ et que beaucoup sont en train de soulever, d'ailleurs je vais vous parler d'un amendement qui a été discuté à 17h45 à l'Assemblée, c'est que ça ressemble un peu à un stage en entreprise si on n'y fait pas gaffe. C'est-à-dire, les gens commencent à s'inquiéter de savoir dans quelles possibilités les associations du secteur social, par exemple, mais le sport, la culture sont quand même dans l'affaire, hein, donc ça fait quand même un champ très large, ne risquent pas de remplacer des salariés par un service civique volontaire. Alors vous allez me dire, le service civil volontaire, c'était déjà un problème, oui, mais c'en est toujours un. Le MEDEF, d'ailleurs, même lui, y a un certain nombre de structures, hein, dont le MEDEF, il y a eu la CFDT, c'est assez d'ailleurs rigolo parce que ça fait assez rouge leur déclaration sur le service civique qui devrait être toute la vie, tout le temps, enfin bon voilà, c'est assez particulier, mais c'est très intéressant. Le MEDEF, ils sont, attention, il faudrait pas que ça rentre en concurrence déloyale sur le secteur privé, il faudrait pas que ça devienne d'autres contrats qui seraient aidés, financés, et sur lesquels nous ne pourrions pas avoir de regard, de mainmise, qui pourraient aussi donc nous faire de la concurrence. Donc ils ont un discours un petit peu, oui, on veut bien, mais attention, c'est assez drôle. Parce que le vrai problème, il est là. Par exemple, l'amendement 51, présenté par Madame Amiable du Parti communiste, donc députée, son amendement de l'article 4 mettait en avant le fait que l'indemnité était en dessous du seuil de pauvreté. Hein, je vous rappelle, le seuil de pauvreté en France, c'est 700 euros, ce qui pose un problème. Est-ce que le volontaire ne va pas devenir un stagiaire ? Hein ? La problématique revient sur un autre amendement, c'est certains qui demandaient toujours au Parti communiste que ça soit lié au Code du travail, qu'ils aient les mêmes droits que les salariés et les stagiaires. La réponse de la commission qui s'est occupée de cette proposition de loi, c'est que non, il faut surtout pas mélanger. Hein, y a l'emploi d'un côté, c'est pas assimilable, et puis y a le service civique volontaire de l'autre côté, parce qu'il n'y a pas le lien de subordination entre le volontaire et la structure. Un peu de la foutaise. Vous n'allez pas me dire que c'est le volontaire qui va choisir ses horaires, qui va choisir sa mission. Il va bien donc avoir une hiérarchie au-dessus de lui. Donc tout ça, c'est évidemment un petit peu du mensonge. Donc, si vous voulez, c'est une manière de dire « Ah ben non, c'est pas de l'emploi, donc on va pas le mettre dans le code du travail. » Jusque si, puisque vous avez beau être là, soi-disant pour un intérêt général, vous êtes quand même là, sur un poste, une entreprise, ça a des salariés, hein, ça a un conseil d'administration qui dirige. Donc, c'est des petites entreprises certes qui n'ont pas les mêmes statuts qu'une SARL, mais enfin c'est quand même le cas. Donc on sent quand même pointer ce problème un petit peu dans un certain nombre d'amendements. Certains voulaient d'ailleurs, un des amendements, l'amendement 10, voulait toujours relier au code du travail, c'est pareil, ça a été rejeté. Et puis ce qui est très drôle, c'est qu'on a vu une proposition, c'est l'amendement 69, arriver avec le service civique senior. Et oui, remettons nos retraités en action. C'est vrai que comme ils n'ont pas d'assez de retraite, hein.
Un petit complément,
ça peut être pas mal. Donc vous voyez, c'est en fait un sujet qui va repasser au Sénat, hein, là, ils sont en discussion, les députés, mais on sent quand même poindre un petit peu la question. C'est-à-dire que, très sincèrement, Monsieur Sarkozy et sa clique sont en train d'aménager au mieux le travail des volontaires que les associations demandent, hein, parce qu'elles disent qu'elles ont plus de demandes que de capacités, parce qu'avec le service civil c'était le bazar, il y avait des procédures hallucinantes, enfin bon, donc elles sont pour un aménagement du volontariat, surtout que il y a déjà, hein, des critères spécifiques qui existent avec d'autres méthodes, hein, pour être volontaire, donc elles sont en général un peu mitigées sur la question et pensent surtout que ça va pas amener grand chose. Je vous propose donc d'écouter Martin Hirsch, c'était le 18 novembre 2009 à l'Assemblée nationale. Quelques extraits.
Monsieur le haut-commissaire à la jeunesse.
Il faut mettre en place ce service civique. Il y a une attente formidable de l'ensemble des jeunes.
Ah ouais, mais franchement pas mon style.
Il y a une attente fantastique de l'ensemble des associations. C'est un projet mobilisateur, c'est un projet de citoyenneté, c'est un projet d'engagement, c'est un projet d'avenir, c'est un projet de générosité.
Tu m'as pris pour un teubé ou quoi ?
Les volontaires ont connu des déceptions au cours de ces dernières années, ils sont prêts à s'engager. Et nous travaillons sur des causes d'intérêt général, à les faire s'impliquer à côté des associations qui travaillent avec les personnes en difficulté d'hébergement, avec Chantal Joanneau pour faire en sorte qu'il puisse participer à établir un répertoire de la biodiversité. Avec les associations pour faire en sorte que du côté environnemental, du côté social, du côté culturel, il y ait des dizaines de milliers de jeunes qui puissent s'engager aux côtés des autres générations pour aider ce pays. Il faut que nous soyons fiers d'avoir fait ce service civique et les jeunes nous attendent, ils veulent rendre service à cette nation par un engagement civique.
C'était pas comme ça avant. Vraiment, je reconnais plus mon pays. Il n'y a plus de valeur. Elle est belle, la France.
Oui, alors vous avez remarqué la petite erreur du servic. Je ne sais pas si vous voulez dire servitude pour ce nouveau service civique volontaire. Et puis franchement, le développement durable, il commence à avoir bon dos. Hein, parce qu'entre la biodiversité, ça nous fait quand même bien marrer. On a besoin juste de professionnels sur la question. Enfin voilà, c'est une petite chose à surveiller.
Voilà, toujours dans l'actualité national, un petit mot sur la cinquième chambre sociale de la cour d'appel de Versailles qui se prononçait sur la mort accidentelle de Jean-Philippe Gabriel qui travaillait chez Renault. Le 29 mars 2004, il est écrasé par un chariot qui se renverse et plusieurs tonnes de matériel qui étaient stockées au sol. En première instance, Renault avait été condamné pour faute inexcusable, donc ils étaient responsables du problème de la mauvaise gestion de leur entreprise qui avait entraîné la mort de ce salarié. Ils avaient naturellement fait appel, hein, et la cinquième chambre sociale de la cour d'appel de Versailles, aujourd'hui, a confirmé la condamnation de Renault pour faute inexcusable pour la mort de ce salarié de 30 ans en 2004 à l'usine de Flins. Et il y a eu la même amende, d'ailleurs, 25 000 euros, enfin l'amende, en préjudice moral à chacun de ses parents. Donc voilà, ça nous rappelle qu'effectivement, le travail tue. Un petit mot d'un truc dont on parle pas souvent, parce que les grands politiques, notamment Sarkozy en tête, nous font un discours sur les paradis fiscaux qui n'existeraient plus, etc. Il y a un rapport qui a été traduit par les Amis de la Terre, hein, qui est un rapport de deux réseaux qui s'appellent Counterbalance et Eurodad, donc c'était au départ en anglais, et qui a un gros rapport qui analyse le fonctionnement de la BEI, c'est la Banque Européenne d'Investissement, et ils se sont rendus compte, quand ils ont analysé ce que faisait la Banque Européenne d'Investissement, qu'elle avait investi des milliards dans des entreprises et des banques liées à des paradis fiscaux. Il y aura des banques françaises dessus, il y a BNP Paribas, il y en a plein d'autres, qu'ils ont financé le gazoduc ouest africain au Nigeria, qui n'était pas du tout lié aux paradis fiscaux. Plein de choses comme ça, d'entreprises, d'actions liées à des paradis fiscaux. Donc en fait, on a un discours de politique d'un côté, et puis de l'autre côté, une instance européenne qui est la Banque Européenne d'Investissement, qui fait l'inverse. Voilà. Sinon, un petit bilan des émissions de gaz à effet de serre depuis 2 ans. Le chiffre est tombé aujourd'hui. Donc, en 2008, le chiffre de 2008, en baisse de 0,6% par rapport à 2007. Si on regarde un peu plus loin par rapport à 2006, c'est une baisse de 2%. Vous allez me dire, c'est cool, ça veut dire que le discours sur le réchauffement climatique, il marche, tout ça, pas du tout. Pas du tout. On nous explique que c'est lié à la baisse de l'activité économique. Par exemple, le transport, les émissions dues au transport ont diminué de 4,5%. En 2007, grâce à la hausse des prix du carburant, c'est l'année où on a dépassé les $100 le baril, où les gens se sont mis à faire moins de kilomètres parce que ça coûtait plus cher, et cette année, à la crise économique. Donc on se rend compte qu'en fait, il n'y a aucune prise de conscience. Les deux effets qui ont ralenti sur les transports, c'est la hausse du prix du pétrole et la crise économique qui a diminué les échanges économiques. Donc voilà, grosso modo, il y a la prise de conscience, elle est théorique, les médias en parlent beaucoup, tout le monde est au courant. Très peu de gens font quelque chose. Finalement, ceux qui font quelque chose aujourd'hui, en majorité contre le réchauffement climatique, c'est des gens qui le faisaient avant que ce soit médiatisé. Donc, ça démontre une fois de plus qu'il y a une très grosse différence entre l'implication médiatique et donc la théorisation des choses et la mise en pratique qui demande aux gens de se remettre en cause, et personne aujourd'hui quasiment n'est capable de se remettre en cause.
Ouais, alors moi j'ai trouvé sur le développement durable le décret le plus inutile.
Il y en a beaucoup.
Si. Ouais, il y en a. Alors il y en a quelques-uns, mais alors, franchement, ils se donnent du mal. C'est le décret numéro 2010-109 du 29 janvier 2010. Hein, c'est Monsieur Hervé Novelli qui est tout content, hein, le secrétaire d'État au commerce, puisque dorénavant, L'origine des fruits et légumes vendus sur un étal, donc chez votre petit épicier ou au supermarché ou au marché, doit être affichée de façon visible et lisible en caractère d'une taille égale à celle du prix. C'est avancé,
Alors que c'était déjà obligatoire de l'écrire. Hein,
mais oui, jusqu'à présent, c'était la taille qui n'était pas obligatoire dans chez les commerces, les détaillants en fait. Donc, voilà, vraiment un décret très très important, hein, puisque le principe de ce décret, c'est de donner les moyens aux consommateurs de connaître la provenance de son fruit ou de son légume pour pouvoir analyser dans sa petite tête est-ce bien de l'acheter ou pas parce qu'il vient de loin.
Voilà, et ce qui, comme la majorité des consommateurs achètent ce qu'ils ont envie et pas, ne tiennent pas compte de l'impact environnemental que ça a, on continue de consommer de la tomate et de la courgette en hiver. Hein. Et pourtant, c'est écrit en gros. Hein, que ça
Mais il y a des choses importantes en France, je veux dire. Tel décret, ça vaut le coup. Quoi.
Bah, autre chose importante en France, je pense que la France est le pays qui a été le plus ridicule cette semaine au niveau environnemental, puisque tout le monde en Europe attendait l'arbitrage de la France sur le thon rouge. Donc ça y est, l'arbitrage est tombé. Le ministre de l'écologie a donné le truc. La France est d'accord pour classer le thon rouge en annexe 1 des espèces menacées, c'est-à-dire interdiction de la pêche industrielle. Je vous rappelle que quand on est classé dans l'annexe 1, la pêche industrielle des gros thoniers, là, ces gros bateaux énormes, est interdite. Par contre, les petits pêcheurs ont toujours le droit de pêcher. Hein, cette pêche traditionnelle qui est une pêche durable, qui détruit pas les espèces. Sauf que la France, elle est la classe, un peu, hein, la classe internationale, elle a dit on fera ça mais dans 18 mois. Ce qui fait qu'il y a encore deux saisons où tous les industriels de la pêche français vont pouvoir laminer les derniers milliers de thons rouges qui restent dans la Méditerranée. C'est la honte suprême au niveau de l'Europe. Tout le monde, de partout en Europe, a pu se moquer et peut encore se moquer de la France pour ça. Alors que la majorité des pays s'étaient positionnés contre cette pêche au thon rouge qui est en train de détruire cette espèce de thon.
Même Albert de Monaco.
Non mais il y avait une espèce de consensus, sauf qu'en France, le consensus ça marche pas, les plus forts restent les patrons, et donc là les patrons pêcheurs, ils sont arrivés à négocier ça. Faut dire qu'on est en période d'élection, et que ça repousse la décision réelle dans 18 mois, c'est-à-dire après les élections, donc voilà, l'UMP a sauvé la mise.
Moi, c'est tout, hein, un petit agenda.
Moi
hein.
Aussi, de toute façon il reste 4 minutes. Hein.
Alors, hop.
Alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir?
Je sais pas, mais demain, moi, j'ai un truc, sinon.
Non, je voulais voir, hein, ben, moi non plus, j'ai rien ce soir.
Alors, demain, vendredi, vous pourrez vous rendre à la Plume Noire, donc 19 rue Pierre Blanc, sur les pentes de la Croix-Rousse, pour un débat, une projection de code Linux. Donc voilà, c'est à 20h30.
Qu'est-ce que je dise d'autre, le but c'est de parler de l'informatique et des libertés.
Exactement.
Alors l'informatique à travers les débats traditionnels sur le logiciel libre, etc. Mais surtout l'aspect liberté, les contrôles, la surveillance qu'il y a à travers utiliser certains logiciels qui sont pas des logiciels libres, même si on les a des fois gratuitement. Enfin voilà, c'est tout un débat important autour de la liberté qui est beaucoup plus attaqué finalement avec l'informatique qu'elle l'était avec le reste des moyens d'information. Quand on achetait un journal, finalement, personne n'était au courant qu'on achetait le journal et personne ne savait ce qu'on lisait. Aujourd'hui, il y a des moyens de savoir ce qu'on lit sur Internet, ce qu'on regarde et de contrôler.
Et puis sinon, samedi, il y a un débat organisé par la CNT Sub du Rhône, hein, c'est le syndicat de travailleurs du bâtiment entre autres. Ils organisent un débat qui s'appelle le travail en coopérative alternative ou intégration au système capitaliste. Ça sera à la Marmite Colbert, qui est rue Diderot, sur les pentes de la Croix-Rousse, à 14h30. Le débat qu'ils ont organisé il y a 15 jours était très très bien, donc on peut parier que celui-ci sera bien aussi. Il y a des invités, ça peut être très intéressant.
Surtout que la question est intéressante, puisque effectivement, on a le retour des coopératives, des SCOP. Vous savez, je crois que ça a été créé à Lyon, en plus, cette économie solidaire, qui est souvent considérée comme non capitaliste. Mais ça participe quand même au système, on ne sait pas bien comment ça se positionne. Tous les salariés des SCOP sont pas forcément ont pas les parts dans les SCOP. Enfin, c'est un peu compliqué. Et donc justement, la question, elle est judicieuse, c'est Est-ce que c'est vraiment une alternative ou est-ce que c'est juste un palliatif carrément de la connivence ou de la coopération avec le capitalisme?
Il y a un très bon documentaire qui s'appelle « C'est pas patron, c'est ouvrier », justement sur une imprimerie qui est en coopérative. Vous pouvez le trouver à la médiathèque de Villeurbanne à la Mlis. Voilà, il est disponible.
Donc ça, c'est samedi après-midi.
Samedi après-midi. Et alors le soir, il y a un repas à 19h au local de la CNT, au 44 rue Burdeau, qui est organisé donc par Tiens bon la pente et la CNT Interco du Rhône. Tiens bon la pente, c'était cette association qui organise à la belle saison des repas de quartier et des zones de gratuité sur la place Colbert, qui se met au chaud donc pour l'hiver et qui vous propose donc un repas végétarien et de saison à prix libre. Ça sera très bon.
Il y a un gâteau au chocolat à la fin.
Ah ouais, enroulé. Qui une ganache au chocolat. La recette a été testée, nous l'avons goûtée, elle est voilà. Très très bonne.
Donc c'est à 19h pour l'apéro et puis vers 20h on commencera à manger au local de la CNT. Et si, donc c'est à prix libre, c'est-à-dire chacun donne ce qu'il veut. Si on fait du bénéfice, qu'en général le cas, ce qui est très bien, ça sera redonné en soutien à Djibril qui est un travailleur sans papier, justement du syndicat unifié du bâtiment de 69.
Ouais, qui est en lutte actuellement. Et moi j'aimerais poser la question, c'est, il y a sur leur affichette une petite question à côté d'une photo. Sauras-tu reconnaître où a été prise cette photo? Alors j'aimerais savoir si jamais on trouve où ça a été pris, si on nous paye à boire. Ce sera la question du jour. Ah mince.
Et sinon, un petit peu plus loin, je crois que tu avais noté dans l'agenda la projection de courts-métrages sur le thème de la publicité par le collectif des déboulonneurs. Hein, c'est ceux qui essayent de lutter contre l'affichage publicitaire omniprésent dans nos villes et dans nos campagnes aussi d'ailleurs. Donc ils projettent des courts-métrages sur la pub. C'est à la Maison de l'écologie, ça sera jeudi prochain, donc le 11 février, à 19h45. Et la Maison de l'écologie, c'est rue Baudin.
Sur les pentes de la Croix-Rousse toujours.
À côté de la
très quartier là. Ouh là.
Ouais, ouais. Oh, bah, il doit se passer des choses dans le 7e aussi, mais ils nous envoient pas les infos.
Si, le canular a effectivement ressorti toute une programmation sur le mois de février, donc il faut un petit peu aller à la pêche sur Rébellion. Ils ont tout un calendrier qui est sorti, tout plein d'animations.
Voilà, il est 20h passé d'une minute, on vous laisse en compagnie de la bande Spartacus qui arrive.
Ciao, ciao.
Bye.
Difficile à voir. Toujours en mouvement est l'avenir.
Kenny Info de Radio Kenny.